Nous voulons, Seigneur, venir à toi dans une attitude de louange. Nous voulons t'écouter, notre Dieu, dans une attitude d'adoration. Que ta parole nous conduise, qu'elle nous éclaire, nous vivifie et nous encourage. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Lorsque nous passons par une crise, la question du temps devient particulièrement importante. Combien de temps est-ce que ça va durer? On espère que ça ne sera pas trop longtemps. Ça semble peut-être plus long que on ne l'avait imaginé. On cherche rapidement après une solution. Nous avons fermé le livre d'Esther dimanche dernier en plein milieu d'une crise. Une crise qui avait amené Mardochée, le cousin d'Esther, à l'interpeller. « Qui sait ?» disait-il. « Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Chapitre 4, verset 14, je pense, c'est la clé du livre. Le moment est venu pour agir. Esther avait convoqué un jeûne de 3 jours qui serait accompagné de prières, et elle aussi allait jeûner, et Mardochée et tous les fidèles qui prendraient cet effort au sérieux allaient se joindre à leurs prières. Lisons donc ce qui s'est passé dans la suite au chapitre 5 du livre d'Esther. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, « Allez sans tarder chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. » Et il se rendit avec Aman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Ce que je demande et ce que je désire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Ce jour-là, Aman repartit content, dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il vit que Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zeresh, et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses, le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses serviteurs. Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé, et je suis encore invité pour demain chez elle, en compagnie du roi. » Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. » Sa femme, Zeresh, et tous ses amis lui suggérèrent alors, « Fais préparer une potence de 25 mètres de haut, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. » Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Aujourd'hui, nous allons découvrir les chapitres 5 à 7, mais on va le faire par section pour suivre bien attentivement le développement. Encore une fois, ce sera utile d'avoir la Bible ouverte devant vous pendant que vous écoutez ce message, à moins que vous soyez à vélo, bien sûr. Je crois que chaque chapitre nous pose une question différente. Pour ce chapitre, la question est, quand nous prions, croyons-nous que le Seigneur va intervenir? Quand les choses vont mal, croyons-nous que le Seigneur va intervenir? Esther s'est présentée devant le trône du roi. Pour rappel, s'approcher de lui quand il ne l'avait pas demandé devait entraîner la peine de mort. Le roi Assuérus avait déjà montré qu'il était impétueux et impitoyable. Et la règle était connue. Chapitre 4, verset 11. Esther connaît la règle. Il n'avait pas appelé Esther et s'il le souhaitait, il pouvait la mettre à mort. Elle se présente donc devant un homme dangereux et capricieux. Heureusement, il lui tend son sceptre, le signe qu'il va lui faire grâce. La différence avec notre roi ne pourrait être plus marquée. Dieu est roi, mais son accueil n'est pas imprévisible, il n'est pas capricieux et impitoyable. En Christ, il a dévoilé sa volonté de nous réconcilier avec lui, de nous pardonner. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun, dit Hébreux 4. Ce qu'Esther allait découvrir, nous le connaissons, la grâce et le secours de Dieu. Assuérus comprend bien qu'Esther n'a pas risqué sa vie pour lui dire bonjour, mais parce qu'elle a une requête importante. Quelle est-elle? Esther va jouer la carte de la diplomatie. Elle sait qu'Assuérus aime les banquets et qu'il ne fera rien s'il n'a pas envie de le faire. Et donc elle dit « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Ce serait dur de refuser une telle invitation. Deux invités, c'est permis, même dans ces temps de confinement, et ce sont toujours les mêmes invités d'ailleurs. Le festin durera deux soirées. Pourtant, on se demande pourquoi Esther au festin ne fait pas sa demande tout de suite, le premier soir. C'est difficile de lire entre les lignes et d'imaginer les motivations de ces personnages bibliques, n'est-ce pas? C'est possible qu'elle veut d'abord s'affermir dans les faveurs du roi, pour qu'il soit prêt à lui dire oui. Et elle agit sans éveiller les soupçons de Aman. Certains y ont vu donc une forme de diplomatie, de charme, menée consciemment avec son objectif en tête. Et c'est sûr qu'Esther a un plan d'action. Mais peut-être aussi nous pouvons imaginer qu'elle a eu peur au moment où le roi se tourne vers elle en disant « Mais qu'est-ce que tu veux ?» C'est très humain, n'est-ce pas, d'avoir peur. Parfois le cadre est prêt, mais par exemple, le jeune homme manque de courage pour demander à son ami de devenir son épouse. Ou dans un autre domaine, on peut avoir cette peur de ce que l'autre va dire lorsque on lui parle. Je pense par exemple à des fois où j'ai eu des conversations avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et je n'ai pas eu le courage de lui dire qu'il était encore ennemi avec Dieu, qu'il avait besoin d'être réconcilié avec Dieu. Un manque de courage. En tout cas, il y a un délai supplémentaire. Il faudra encore attendre presque 24 heures avant de savoir ce qu'elle veut vraiment. Et dans la deuxième partie du chapitre, on voit les attitudes d'Aman, l'adversaire. Il est quelque part très, très fier, très content d'avoir été invité par la reine et le roi, mais il a également une grande irritation. Verset 9. Lorsqu'il vit que Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Qu'est-ce que Mardochée fait là, à la porte du roi? C'est plusieurs fois qu'on les retrouve, n'est-ce pas, dans cette histoire. Et au départ, je crois qu'il était simplement soucieux de sa cousine, qu'il la traitait un peu comme sa fille, et il voulait savoir qu'on prenait soin d'elle. Chapitre 2, verset 11, il se promenait devant la cour pour avoir de ses nouvelles. Mais par la suite, il est plus précisément à la porte du roi. Et il est assimilé au serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi. Chapitre 3, verset 2. Donc ce sont des gardes. Il agissait en tant qu'agent de sécurité, un peu comme on voit devant les magasins, ou là pour ouvrir et fermer les portes. C'est pour ça qu'il était si souvent dans les parages du palais. Et Mardochée continue à faire son mot croisé, ou ce que faisaient les gardes à l'époque, mais il ne se lève pas, même quand Aman, qui se trouvait très important, passe devant lui, ou surtout quand Aman passe devant lui. Aman est blessé dans son amour-propre. Et malgré qu'il a planifié d'exterminer tous les Juifs, Aman voit que celui qu'il déteste le plus, et qui a bien moins de pouvoir que lui, parce que Aman est élevé, celui-là n'a pas peur de lui. Mardochée était confiant en Dieu. Il avait prié, et il croyait que Dieu allait intervenir. Il l'avait dit au chapitre précédent, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Aman est furieux de le voir. Et donc, pour le réconforter, l'entourage d'Aman va lui conseiller d'agir directement contre Mardochée. Et c'est la femme d'Aman, qui s'appelle Zeresh, qui parle et qui montre que tout comme Assuérus est influencé par son épouse, Aman est influencé par la sienne. Verset 14, donc nous voyons sa femme Zérège et tous ses amis lui suggérèrent alors: fais préparer une potence de 25 mètres de haut, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Il ne faut pas sous-estimer la gravité de la situation. À la fin de ce chapitre, la situation est pire qu'au départ. C'est intéressant que dans ce récit, il y a une menace de mort qui plane au-dessus de plusieurs. Le roi lui-même avait été presque victime d'un complot meurtrier. Vous vous souvenez, au chapitre 2. Les Juifs étaient menacés d'extinction. Esther, en allant chez le roi, risquait sa vie. Elle a été sauvée, mais elle n'a encore rien résolu. Et maintenant, Mardoché est un homme menacé de mort, sans même le savoir. Esther et Mardoché sont au bon endroit, mais ils n'ont pas agi assez vite. Ils sont impuissants. Et au moment où la nuit tombe, il n'y a personne pour intervenir pour Mardoché. Il lui reste une seule nuit à vivre, et il mourra le lendemain matin. Croyons-nous que le Seigneur puisse intervenir? Ou est-ce que la messe est dite, comme on dit? La question se pose particulièrement pour nous, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes censés être des gens de foi. La foi n'est pas uniquement pour le début de ma vie chrétienne, où je crois les promesses de Dieu pour me pardonner et je le remercie. La foi est pour toute la vie d'un chrétien. C'est compter sur Dieu, lui faire confiance, même lorsque nous ne recevons pas ce que nous pensons devrait nous revenir. Et quelqu'un pourrait vivre une vie chrétienne sans Dieu. C'est choquant de le dire comme ça, n'est-ce pas? Vivre la vie chrétienne sans Dieu. C'est vivre une vie chrétienne où je crois que Dieu interviendra pour nous sauver dans 3000 ans ou dans 30 ans. Et je vis ma vie avec des valeurs chrétiennes, mais où je ne m'attends pas à ce que Dieu intervienne dans ma vie de tous les jours. Nous devenons des gens qui croyons en la matière, la technologie, le compte en banque, le travail, les choses visibles, et nous oublions l'invisible. C'est triste, mais c'est possible de continuer dans la routine sans aucune attente que l'Éternel agisse. Et si on prie pour la forme, pas parce qu'on croit vraiment que Dieu va agir. On pourrait imaginer que les croyants de l'époque se disent « on ne peut rien contre l'empereur, son décret est fait et ne peut être changé » ou « Aman est juste trop puissant, nous n'avons aucune influence sur lui ». Ce sont des raisonnements humains qui oublient ce que la Bible dit. L'Éternel, notre Dieu, est proche de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui, dit Deutéronome 4. Et en parlant de l'exil, Moïse dit « Vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux en prêtant serment. » Ceux qui ont jeûné et prié pour Esther pendant 3 jours, je crois qu'ils croyaient que Dieu allait intervenir. Ils savaient que dans leur psaume, il est écrit que l'Éternel règne éternellement sur son trône. Ce que nous savons de Dieu, par la Bible, doit changer nos attentes par rapport à notre vie et par rapport à nos prières. Osez-vous toujours demander de grandes choses à Dieu? Êtes-vous prompt à croire que Dieu va agir ou pensez-vous que les circonstances le dépassent? Je ne parle pas de dicter notre volonté à Dieu. Ça, on ne peut pas le faire. Certains voudraient le faire, mais on ne peut pas dicter notre volonté et dire que Dieu doit faire ce qu'on lui demande. Mais prier en sachant que le Seigneur est bien plus puissant que le monde. Ça nous donne envie de prier, n'est-ce pas? Et il l'a prouvé. Dieu l'a prouvé au chapitre 6 d'Esther. Et on reprend donc la lecture. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil, il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouve à mentionner les révélations faites par Mardochée à propos de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Le roi demanda « Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela ?»« On ne lui a absolument rien accordé, » répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors « Qui donc est dans la cour ?» Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardochée à la potence qu'il avait préparée à son attention. Les serviteurs du roi lui répondirent « C'est Aman qui se tient dans la cour. »« Qu'il entre !» ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit « Qui d'autre, à part moi, le roi voudrait-il honorer ?» Et il lui répondit « Si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté et sur la tête duquel on est posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville, et crier devant lui « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer !» Le roi dit à Aman « Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. » Aman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardochée et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville, en criant devant lui « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer !» Mardochée retourna ensuite à la porte du roi, tandis qu'Aman s'empressa de rentrer chez lui, dans une attitude de deuil et la tête couverte. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dirent « Si ce Mardochée devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Il parlait encore avec lui. Quand les eunuques du roi arrivèrent, ils s'empressèrent de conduire Aman au banquet qu'Esther avait préparé. Faisons-nous confiance au timing du Seigneur. Faisons-nous confiance au timing du Seigneur. Il y a un retournement de situation extrêmement fort de ce chapitre et nous allons apprécier tous les détails. Particulièrement impressionnant est le timing, le chronométrage des événements. Tout s'enchaîne, s'adapte exactement, arrive au point nommé. Dans la seule nuit qui restait entre l'idée de tuer Mardochée et son exécution, Assuérus ne dort pas. Y a-t-il eu une insomnie plus salutaire dans l'histoire du salut? Et il demande qu'on lui lise les chapitres de l'histoire de son royaume, probablement pour le divertir plutôt que pour l'endormir. C'était peut-être un peu ennuyeux, ces vieilles histoires de ce qui s'était passé dans les divers mois de son règne. Mais j'imagine que c'était pour le divertir. Et puis l'épisode est lu, que nous avons au chapitre 2 du livre d'Esther, mais qui se trouvait aussi dans les annales de l'histoire du royaume perse. Mardochée avait empêché un complot d'assassinat qui visait justement Assuérus. Cet homme n'a jamais été honoré. Au matin donc, le roi se renseigne. Assuérus apprend, verset 10, que Mardochée est juif. Et il n'a qu'un modeste emploi à la porte du palais. Il faut faire quelque chose. Et Aman est en train de faire la file pour lui demander d'éliminer Mardochée. Verset 6, dès que Aman fut entré, le roi lui demanda « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Formidable ambiguïté, n'est-ce pas, dans cette question, parce que s'il avait posé la question différemment, que faudrait-il faire pour Mardochée ? La réponse aurait été tout autre. Mais cette phrase amène Aman à dire des choses grandioses, parce qu'il pense que c'est lui-même qui va être honoré. Il y a quelques mois, au musée de l'automobile, à Bruxelles, j'ai vu une Cadillac que le roi Baudouin avait utilisée dans les années 60. Quelle magnifique voiture! Et on peut imaginer ce que ce serait de rouler dans cette voiture qui a eu un tel honneur. Et quand il propose de choisir un cheval qui a porté le roi, c'est pareil, je pense, un privilège, un honneur qu'il vise. et à voir aussi ces personnes. C'est quelqu'un qui crierait devant lui. Voici ce que Dieu, ce qu'on fait pour l'homme que le roi veut honorer. Et puis on imagine, verset 10, le choc de l'ennemi quand il entend ceci. Fais tout cela pour le juif Mardoché. Il a dû faire le tour avec une tête sombre, j'imagine. Et on lit qu'il est rentré chez lui, plein de honte, dans le deuil. Lui qui avait causé, par ses agissements, le deuil et le jeûne des Juifs, il se retrouve dans le deuil. Lui qui trouvait que Mardoché ne l'honorait pas assez, il doit honorer Mardoché encore plus. Et parmi les mages, au verset 13, il y en avait qui connaissaient l'histoire des Babyloniens et sauraient comment Daniel avait démontré auprès de Nebuchadnezzar la force toute-puissante du Dieu Très-Haut, le Dieu d'Esther et de Mardoché. Quelle folie de s'opposer à lui! Et au lieu de pouvoir aller au banquet dans la joie qu'il prévoyait, Aman va au banquet dans le deuil. Il sait que ça va être sa fête. Ne voyons-nous pas ici la main de Dieu agir? Sommes-nous plus enclins à lui faire confiance, maintenant que nous lisons la façon remarquable dont il a agi? Dans ce livre biblique, il y a un aspect étrange. Le nom de Dieu n'est pas prononcé. Dieu n'est jamais mentionné explicitement. Mais dans les séries policières, quand les policiers veulent identifier celui qui a agi, il regarde les empreintes digitales. Et dans cette histoire d'Esther, l'Éternel n'est pas nommé, mais ses empreintes sont partout dans l'histoire. Qui peut agir à temps comme lui? Georges Müller, qui est un chrétien du passé, un Allemand, écrivait ceci. « La foi n'opère pas dans le domaine du possible. Il n'y a pas de gloire pour Dieu dans ce qui est humainement possible. La foi commence là où s'arrête la puissance humaine. » Vous pouvez penser, j'imagine, à des moments où Dieu est intervenu juste à temps. C'était le dernier jour avant l'échéance, peut-être, ou dans la dernière semaine. Dans le cas de Georges Müller, il était responsable d'un orphelinat d'environ 100 enfants. Quand un soir, sa femme lui a annoncé une nouvelle assez dramatique, il n'y avait plus de lait pour le déjeuner du lendemain. Et non seulement il n'y avait pas de lait, mais il n'avait pas les moyens d'acheter quelque chose pour tous ses enfants. Müller avait l'habitude de ne jamais demander aux gens pour de l'argent, ni à leur en emprunter, et donc il s'est mis à prier avec sa femme. Et à ce moment-là, quelqu'un est venu frapper à la porte de l'orphelinat avec une enveloppe dans laquelle se trouvait de l'argent bien plus qu'assez pour le lait du lendemain. Et cette confiance qu'il avait en Dieu lui a permis d'entreprendre de grands projets pour lui, et souvent de voir des réponses pareilles à ses prières. Ça devrait nous faire réfléchir. Pensons à quand Dieu agit. Parfois, ça nous semble trop lent, comme lorsque Esther a demandé de prolonger encore 24 heures avant de faire sa demande. Parfois, les développements nous paraissent trop rapides. L'échéance est juste trop proche. Comme quand Aman subitement décide de dresser une potence le jour même et de parler au roi dès le matin. Je peux penser à bon nombre de mes prières qui se résument à dire à Dieu qu'il doit agir plus vite. Jusqu'à quand, Seigneur? Vite, interviens vite. Mais Dieu nous fait attendre. Et ce qui se passe ici nous révèle une vérité importante. Ce qui nous paraît un retard n'est pas un retard pour Dieu. Pierre, l'apôtre, l'a écrit, « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. » Non, Dieu agit au bon moment, au moment voulu. Il a envoyé son Fils au moment choisi, ni trop tôt, ni trop tard, pour nous racheter. Et Jésus reviendra, ni trop tard, ni trop tôt, pour nous sauver. Si nous devons être confinés, si nous devons passer par une épreuve qui est plus longue que nous ne le souhaiterions, nous devons faire confiance au timing de Dieu. Croire qu'il y a quelque chose à nous apprendre, il a quelque chose à nous apprendre, qu'il n'a pas fini de faire pour le moment, qu'il est encore en train de faire, et qui nous permettra de faire quelque chose pour lui. Son projet n'est pas à l'arrêt et n'est pas reporté comme nos activités. Il se sert de nous et nous rencontre et nous transforme, même pendant ces semaines de confinement. Et les gens le recherchent, prient et le trouvent d'une manière nouvelle. Qu'il nous réveille et qu'il nous trouve prêts lorsque nous pourrons nous retrouver. Mais en attendant, faisons confiance à son horaire divin. Et lisons le chapitre 7, c'est que 10 versets. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce second jour de nouveau, le roi dit à Esther pendant qu'on buvait le vin, « Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés et supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves, des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Aman trembla de peur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle du banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther, et il dit « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. » Le roi ordonna « Pendez-y donc Aman !» Ainsi on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Prenons-nous conscience de notre sécurité dans le Seigneur. Prenons-nous conscience de notre sécurité dans le Seigneur. Je vais expliquer pourquoi j'arrive à cette conclusion ou cette question, mais d'abord regardons la réponse d'Esther. Au verset 2, là, le moment est venu pour boire du vin, c'est après le repas. Dans leur culture, ils buvaient de l'eau avec le repas principal et puis le vin avec des fruits à la fin. Et le roi cherche à comprendre ce que veut Esther. Elle pourrait demander à la moitié du royaume, c'est une phrase sans doute exagérée, mais c'est une offre grandiose. Elle pourrait demander d'être reine de l'Ouest et de pouvoir régner sur son territoire à Jérusalem. Mais elle n'est pas poussée par une ambition personnelle. Esther n'est pas distraite non plus par la richesse ou tout ce que le roi aurait à lui offrir. Esther a une mission, sauver son peuple. Regardez comment elle s'y prend au verset 3 et 4. Elle met en avant les arguments qui vont le plus toucher le roi. « Accorde-moi la vie sauve. » Elle plaide pour sa vie parce qu'elle sait que le roi l'aime et l'apprécie. Elle fait aussi mention des pertes que le roi va subir si les Juifs disparaissent. Elle fait appel à son intérêt personnel aussi, à son intérêt personnel de roi. Et Esther emploie aussi des termes forts, comme massacré, exterminé, pour souligner la gravité de la situation. Nous pouvons apprendre d'elle comment parler avec tact, avec diplomatie, mais aussi avec respect. Assuérus est étonné. Qui s'en prend à Esther? Dans les festivités, il semblait oublier la permission qu'il avait donnée auparavant à son grand vizir de disposer du peuple juif comme il le voulait. Et donc, coup de théâtre, verset 6, Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Et le roi est furieux, tandis que l'ennemi tremble. Et encore une tragédie comique dans son timing. Le roi sort pour prendre l'air, le grand vizir se met à implorer Esther, et quand le roi rentre, il le trouve en train de s'agripper à la reine pour obtenir sa miséricorde. Et donc, il se fâche et on recouvrit le visage d'Aman. signe qu'il était destiné à être mis à mort. Ce voile qui couvre son visage anticipe les ténèbres auxquelles il va faire face. Et ce qui est frappant est que celui qui n'a jamais jusque-là eu une menace à sa vie, au contraire d'Assuérus, d'Esther, de Mardochée ou de son peuple, Aman n'a jamais eu une menace à sa vie, mais il finit par être celui qui est tué. Il y avait, dit le verset 9, une potence préparée par Aman pour Mardochée, celui qui avait parlé pour le roi. Mais il est impensable que le sauveur du roi va être pendu maintenant. C'est l'ennemi qui sera tué, afin que la colère du roi soit apaisée. Et nous comprenons alors combien la croix de Jésus-Christ est étrange. Elle a quelque chose d'anormal. Il aurait été injuste de pendre Mardochée et il aurait été injuste de pendre Jésus sur le bois. Jésus n'avait rien fait de mal. Comme l'ont dit ses disciples, mais aussi son juge et un de ceux qui mouraient à côté de lui, il n'a rien fait de mal. Et dans un monde où Dieu intervient et où Dieu envoie son salut juste au bon moment, c'est dur d'accepter que Jésus soit pendu au bois et meurt. Jusqu'au moment où nous saisissons que Jésus ne mourait pas pour ses péchés, mais pour se substituer à nous qui avons offensé Dieu. Le crime que nous avons commis n'est pas un crime contre le code civil, mais un crime contre la divinité. Nous avons la possibilité de demander pardon. Au lieu d'être coupés de Dieu pour toujours dans les ténèbres, nous pouvons être pardonnés et vivre le bonheur d'appartenir à Dieu. Le Seigneur est quelqu'un qui nous aime et qui veut notre bien. Nous pouvons lui faire entièrement confiance. Et là, justement, nous revenons au thème de la sécurité. Notre sécurité est en Dieu. Dans ce chapitre et dans tout le livre, nous voyons des menaces, des obstacles, des ennemis, des complots. Dans la vie courante, nous voyons des menaces, des dangers, des obstacles, des ennemis. Comment pouvons-nous espérer survivre? Je crois qu'après avoir lu cette histoire, nous dirons plutôt « Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. » Cette histoire d'Esther, chapitre 7, n'est pas une histoire de victoire pour Esther ou pour Mardochée, mais c'est la victoire du Seigneur. Le meurtrier est mort, l'ennemi est empêché. Il y a toujours une menace, l'édit du roi avait été publié et ne peut pas être changé. Cet édit menace l'existence de tous les Juifs. Aman est mort, mais ses 10 fils pourraient tirer vengeance sur Mardochée. Les Juifs étaient toujours en danger. Et nous verrons la semaine prochaine ce qui s'est passé. Mais nous voyons ici comment Dieu met ses enfants en sécurité. Esther au chapitre 5, il a gardé en sécurité. Mardochée au chapitre 6 et 7, Dieu interviendra. En son temps, s'opposer à lui ne réussira pas. Quelle sécurité pour ceux qui sont de son côté. Notre sécurité n'est pas d'être dans nos maisons, derrière un masque ou un plexiglas, ni d'être riche, ni d'avoir un emploi. Notre sécurité est beaucoup plus forte que ces choses-là. La paix que nous avons n'est pas la même chose que la tranquillité de ne jamais être dérangé, mais la paix vient en sachant que notre vie, nos jours, sont entre les mains de Dieu, et que Dieu est bon, et qu'il est pour nous. Ce même Dieu qui était pour Esther et pour Mardochée est pour nous. Et il est toujours puissant. Et son salut va au-delà même de notre vie présente et de notre corps physique. Son salut est éternel. Il nous protège pour toujours. Il mérite bien notre confiance. Et nous serons en sécurité avec lui. Faisons-lui confiance. Amen.